Bonjour à toutes, bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Très heureux d'être avec vous encore aujourd'hui pour étudier sa parole. On est dans notre dernier chapitre de 1 Corinthiens. On a étudié 1 Corinthiens cette année, et là, c'est la fin. On voit les versets 1 à 24 ce matin, avec cette pensée d'un amour en action. Je fais la lecture et puis on voit ça ensemble. 1 Corinthiens chapitre 16. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise, accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe, et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez, vous aussi, de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Je me réjouis de la présence de Stéphanas et de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, maudit. Maranatha, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous tous. En Jésus-Christ. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Si vous avez suivi cette série sur 1 Corinthiens, vous savez que nombre de chapitres étaient difficiles. C'était souvent des corrections que Paul adressait à ses frères de Corinthe. Alors, comment finir une lettre dans laquelle tellement de reproches ont été formulés ? Comment les Corinthiens pourraient prêter toute leur attention aux réprimandes de l'apôtre pour que des changements s'opèrent dans leur vie? Qu'est-ce qui ouvre vos cœurs aux réprimandes? Si vous receviez une telle lettre, qu'est-ce qui vous rendrait attentif à ces propos? Qu'est-ce qui vous pousserait à changer? Je crois que C'est l'amour de l'auteur qui nous pousse à changer. Et l'apôtre Paul, il écrit avec beaucoup d'affection ces derniers versets, ces derniers mots dans sa lettre. Ça reflète l'amour de Dieu pour nous, qui nous aime, qui veut nous voir transformés, changés par l'Évangile. Paul aime les Corinthiens. Et les derniers mots qu'il leur adresse dévoilent cet amour sincère pour eux. Il veut les voir et il veut passer du temps avec eux. C'est ce qu'on voit au verset 7. Il a même encouragé Timothée et Apollos à se rendre là-bas pour les visiter et les encourager à leur tour. Il les remercie pour la visite des frères de l'église qui sont venus le voir à Éphèse. Ça, c'est dans les versets 17 et 18. Ces frères-là ont tranquillisé son esprit. Il les remercie. Et puis, il leur envoie ses chaleureuses salutations et termine sa lettre avec ces mots, le verset 24. « Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. » Il souhaite que les Corinthiens se souviennent de son amour. Mais il veut aussi que les Corinthiens prennent modèle sur cet amour et soient animés de ce même amour. Et donc, il achève aussi sa lettre avec une punchline, hein, qu'on trouve sur Internet, certainement, qui révèle la motivation profonde dans tout ce qu'il a écrit. Aussi, qui lit ensemble tout le passage que l'on vient de lire et qui devrait aussi retenir l'attention des Corinthiens et la nôtre. Et cette punchline, c'est le verset 14. « Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. » J'ai trouvé que c'était une excellente manière aussi pour nous de finir l'année. « Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. » Ce qui a véritablement de la valeur dans tout ce que nous avons fait cette année, c'est ce que nous avons fait avec amour. Tout ce qui a de la valeur dans l'année 2020 qui est devant nous, ce sera ce qui est fait avec amour. L'amour, c'est pas simplement un sentiment. L'amour, il prend vie dans ce que l'on fait, dans les paroles que l'on dit et dans les actions que l'on fait. Et c'est pour ça que dans notre passage, je voudrais relever trois points. Que l'amour chrétien se manifeste de façon concrète dans la libéralité dans l'œuvre du Seigneur. On verra ça dans les versets 1 à 4. On verra aussi que l'amour se voit dans le travail dans l'œuvre du Seigneur et enfin dans l'intérêt pour les frères. Regardons tout d'abord l'amour concret dans la libéralité, dans l'œuvre du Seigneur, les versets 1 à 4. Paul, il vient de terminer un exposé magistral sur la résurrection et la vie future. Et la résurrection devrait avoir des implications pratiques et immédiates dans nos vies, pour qu'on vive plus fidèlement. En effet, si nous croyons vraiment que nous quitterons ce monde et que notre corps sera un jour transformé et parfaitement uni à notre esprit, pour vivre éternellement dans la présence du Seigneur, nous devrions alors nous soucier d'amasser des trésors dans le ciel pendant que nous sommes sur cette terre. Si toute notre vie, ou si la plus grande partie de notre vie va se passer dans la présence du Seigneur, lié au Seigneur, avec un nouveau corps, un cœur finalement transformé. Alors c'est cela qui devrait avoir toute notre attention. C'est ça qui devrait porter, vers lequel on devrait porter tout notre investissement, notre pensée. Et l'occasion donc de donner est offerte aux Corinthiens en secourant leurs frères de Jérusalem qui connaissent une famine. Les mots « en ce qui concerne » du verset 1 font référence à une question donc des Corinthiens au sujet de cette collecte. Deux chapitres vont être consacrés dans l'épître suivante, dans la lettre suivante, les chapitres 8 et 9 de 2 Corinthiens. Mais Paul ici ne va pas s'attarder sur la raison de la collecte, mais plutôt sur son organisation pratique. Ce qu'il veut, c'est pas que les gens sachent qu'il faut donner, mais que les gens donnent. Il dit « afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les biens ». Dire « ah oui, on va donner pour les… ah ouais, ah oui, c'est déjà demain, ah ouais, d'accord ». Ah ben, qu'est-ce que j'ai sur moi ?» Non, c'est pas de cette manière-là qu'il veut. Non, si on veut donner pour les églises, si on veut donner pour nos frères, si on veut donner pour que l'évangile progresse, c'est quelque chose qu'on a intégré dans notre vie, dans nos cœurs, qui nous préoccupe. L'occasion à nous aussi nous est donnée, à l'EBTM, de donner. Vous savez, c'est le dernier jour pour vous engager dans le soutien missionnaire mensuel. Vous avez un petit coupon ici pour pouvoir le faire. Et nous aussi, on veut participer dans l'œuvre du Seigneur. Si nous voulons manifester notre amour, voici quelques instructions que l'apôtre Paul nous donne. Il donne à toutes les églises, d'ailleurs. Regardez verset 2, il dit « que chacun de vous ». C'est-à-dire, ne pensez pas que la libéralité, c'est pour les autres. Ne pensez pas que la libéralité, ce qui donne, c'est ceux qui ont un gros salaire. Ce sont ceux qui ont un CDI. Non, ne vous laissez pas dérober ce privilège d'entrer dans l'œuvre du Seigneur et de donner dans l'œuvre du Seigneur. Si vous êtes étudiant, si vous avez un faible revenu, vous êtes aussi concerné par l'implication et le Seigneur regarde cela avec attention dans votre vie. Il dit le premier jour de la semaine, le dimanche. Il y a ici une question d'intentionnalité. Si je veux donner dans l'œuvre de Dieu pour les progrès de l'Évangile, pour les frères qui sont dans le besoin, nous devons donner d'une manière réfléchie, régulière, parce que nous voulons donner largement. Alors, ça veut dire qu'on a intégré cela dans notre budget global. On ne devrait pas se poser la question, tiens, qu'est-ce que je vais donner là aujourd'hui? Ah oui, mince, il y a une collecte aujourd'hui. Non, c'est tous les dimanches. Ah oui, j'ai bien la monnaie du pain là. Non, on ne fait pas la manche. Non, on est en train de prendre part à l'œuvre de Dieu. On est en train de prendre soin de nos frères. On est en train d'encourager nos missionnaires. On le fait par amour. Il dit ici que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. C'est-à-dire ce qu'il pourra en fonction de nos besoins, de nos moyens. La question n'est pas combien je dois donner, comme si on devait s'acquitter d'une taxe. On en a assez, des taxes. Non. La question, c'est qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux donner? Quelle part je souhaite prendre dans son œuvre? L'amour de Dieu me presse. Je voudrais que de nombreuses personnes entendent le message de l'Évangile. Je voudrais voir des ouvriers s'engager dans la moisson. Il dit ici, selon sa prospérité. C'est-à-dire de façon proportionnelle. Dans l'Ancien Testament, les croyants donnaient la dîme, 10% de leurs revenus. C'était une manière proportionnelle de donner. Avons-nous reçu plus ou moins de la révélation de Dieu, de sa vérité et de sa grâce que les croyants de l'Ancien Testament? Ça devrait nous faire réfléchir à notre part. Le verset 3 dit, il parle dans le verset 3 de la protection au fond de nos offrandes. Aujourd'hui, la tâche pour envoyer des finances à quelqu'un, c'est facile. Hein. On met en place des virements automatiques. C'est ce qu'on a fait pour tous nos missionnaires. Ils reçoivent tel jour du mois, tac, leur soutien par virement automatique. C'est sécurisé, c'est rapide, c'est régulier. Mais à l'époque de Paul, et dans bien des régions du monde encore aujourd'hui, on doit apporter le soutien, on doit l'apporter en espèces, et il faut confier cette somme à des personnes de confiance. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on devrait toujours faire avec les questions financières, toujours les confier à des personnes de confiance. Hein? Et dans l'Église, on a une équipe de responsables des finances. Ce n'est pas une personne qui s'en charge. Non, 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 il y a plusieurs personnes. Ils sont ensemble. La gestion, elle doit être rigoureuse. Il faut qu'elle soit transparente. pour que tout le monde sache dans l'Église où va l'argent. C'est important que les gens à qui on confie les finances soient des personnes pieuses, dignes de confiance. C'est indispensable pour ne laisser aucune place à la suspicion ou au vol ou à la corruption. Voilà comment on peut agir avec amour dans l'œuvre du Seigneur. Nos finances contribuent à l'EBTM, à l'évangélisation et à l'édification des Toulousains, mais aussi à des femmes en Algérie, à l'évangélisation du peuple Djoula en Côte d'Ivoire, à l'évangélisation et à la mobilisation de la jeunesse en France, en Amérique du Sud, au secours des plus démunis, ici à Toulouse, mais aussi plus au loin, à l'implantation de nouvelles églises, en France, à Mayotte, qui est aussi un coin de la France. Nos dons financiers, elles sont un encouragement pour nos missionnaires, parce qu'ils témoignent de notre amour pour eux et pour l'œuvre du Seigneur. L'amour chrétien se manifeste donc de façon concrète dans la libéralité, mais aussi dans le travail, dans l'œuvre du Seigneur. La résurrection, c'était le chapitre 15, elle doit nous conduire tous à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. C'est la conclusion du chapitre 15. Ainsi, mes frères bien-aimés, travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. C'est une conséquence directe de la résurrection. Si on va ressusciter éternellement, si on va vivre avec le Seigneur, si le message de l'Évangile fait passer des hommes de pécheurs de la vie, de la mort à la vie, alors c'est ce message-là qu'on doit annoncer, que l'on doit faire connaître. On doit travailler à cela. Paul a un projet. J'aime Paul, on le voit bouillonnant de projets. Dans le verset 5, il donne, et jusqu'au verset 12, il donne beaucoup d'éléments sur ses projets. L'amour le presse, il veut voir les Corinthiens, mais il veut aussi visiter toutes les églises de la Macédoine. Puis ensuite, il veut rejoindre la Judée. Il voit toujours plus de travail à faire. Il voit plus de croyants à édifier, plus d'âmes à atteindre, à qui annoncer l'Évangile. Plus de chrétiens à encourager. Alors, il anticipe, il planifie, il a toujours un projet. L'étape suivante, il l'a déjà en tête. Mais il a aussi quelques incertitudes. Vous avez remarqué ça dans les versets 6, il dit « peut-être » ou « même ». Au verset 7, il dit « j'espère ». Il dit « si Dieu le permet ». On sait que dans sa deuxième lettre, les Corinthiens ont jugé le fait que Paul ait revu ses projets comme une marque de faiblesse, une attitude purement humaine et charnelle. C'est comme si son incertitude avait été une marque de faiblesse, quoi. Il ne sait pas vraiment où il va, le gars. Il a changé ses plans. C'est pas cela. Son incertitude n'est pas un signe de faiblesse, mais d'humilité. Elle est liée à sa dépendance de Dieu. L'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Il en est conscient. Avec le conseil, nous réfléchissons à la suite de l'œuvre à accomplir à l'EBTM. Mais il y a tellement de choses qui nous échappent, qui sont en dehors de notre contrôle. Nous allons formuler des projets dans les semaines à venir. On va vous les présenter. Mais nous reconnaissons que Dieu est celui qui dirige son œuvre. Et donc, on vous demande de prier pour nous, pour le conseil, mais de prier aussi pour que toute l'Église soit attachée à faire la volonté du Seigneur et à s'y engager, à être attentif à sa volonté. Pour relever aussi que, dans l'œuvre du Seigneur, Paul, il veut prendre du temps avec les Corinthiens. Verset 6, il aimerait y passer l'hiver. « Je ne veux pas vous voir, verset 7, en passant, mais demeurez quelque temps auprès de vous. » Vous savez, l'œuvre de Dieu ne se fait pas en deux coups de cuillère à peau. L'œuvre de Dieu, c'est un processus long et exigeant. On ne peut pas enseigner tout le conseil de Dieu rapidement. Superficiellement, non. Tout ne va pas se régler parce que l'apôtre Paul a écrit une lettre. Il va en écrire une autre plus tard. Mais c'est aussi, même s'il compte bien que des changements s'opèrent avec cette première lettre, il veut prendre du temps avec eux et exposer plus en profondeur les Écritures pour que l'Écriture transforme leur vie, leur cœur, pour que le Saint-Esprit les façonne. Si on ne prend pas du temps pour étudier, on reste toujours en surface des questions. Si l'on veut progresser, il nous faut creuser les Écritures. Et ça prend du temps. C'est du travail. Cette année, on a démarré plusieurs formations dans notre projet de faire des disciples, qui font eux-mêmes des disciples. Et j'ai entendu plusieurs retours très encourageants. Mais vous savez quoi ? Tous ceux qui ont été encouragés, ce sont des gens qui ont pris du temps, qui ont étudié, qui ont creusé les Écritures, qui ont travaillé, qui ont prié, qui ont étudié. Verset 9, il dit aussi qu'il y a toutes sortes de difficultés. Et dans l'œuvre de Dieu, si on veut travailler dans l'œuvre de Dieu, c'est là aussi où on voit l'amour pour nos frères, l'amour pour Dieu, c'est qu'il y a des difficultés. Si vous voulez servir Dieu, vous allez connaître des difficultés. J'aimerais vous dire que ce n'est pas vrai, mais non, vous allez connaître des difficultés. Il n'y a pas de ministère authentique sans problème et sans opposition sous une forme ou une autre. Satan lui-même y veille. L'expérience de Paul, il l'écrit dans la deuxième épître, chapitre 1, verset 8, il dit « Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. » Et quand il parle de cette situation-là, il dit « Une porte mais grande ouverte à Éphèse. » Et les adversaires sont nombreux. Et il faut s'attendre à toujours connaître des adversaires. Paul a connu le paganisme avec la Diane des Éphésiens et tout le commerce lucratif qu'il y avait autour. Il y avait aussi beaucoup de débauches sexuelles. Il y avait des juifs exorcistes qui prétendaient chasser les démons au nom de Jésus sans le connaître véritablement. Il y avait aussi beaucoup de magiciens et d'occultisme, des adversaires virulents. Il dit encore dans sa deuxième épître, au chapitre 4, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, etc. etc. » Il connaît des souffrances, il connaît des difficultés. Et vous savez, ces difficultés-là, et cette persévérance dans l'œuvre de Dieu, c'est le fruit de notre amour pour les frères, pour les gens qui nous entourent. C'est cette passion-là qui révèle notre amour. Alors, si vous cherchez un endroit où servir, considérez là où il y a des problèmes. Considérez un groupe de notre Église qui a besoin de mieux comprendre les Écritures. Une cellule qui peut-être est découragée. Des personnes qui n'ont jamais entendu l'Évangile, ou seulement sous une forme pervertie ou déséquilibrée. C'est là que le Seigneur peut véritablement vous utiliser. Paul écrit encore quelques mots concernant les ouvriers, deux ouvriers notamment, Timothée et Apollos. Timothée, c'est un jeune pasteur. Et Paul, il sait comment les Corinthiens l'ont critiqué, lui, l'apôtre et le fondateur de l'Église. Et il envoie son protégé, Timothée, à Corinthe. Il se dit, oh là là, comment est-ce qu'ils vont l'accueillir? Et là, il leur fait des recommandations. Prenez soin de lui, encouragez-le. Vous savez, on veut que nos jeunes se lèvent dans le service du Seigneur. Bien sûr, on veut qu'ils soient éprouvés, on veut qu'ils soient sérieux dans leur foi. Mais ils ont besoin d'être encouragés, ils ont besoin d'être accompagnés. Ils vont faire des erreurs comme on en a tous fait, comme on en fait tous. Mais ils ont besoin d'être soutenus, portés dans leur faiblesse. On a besoin de les supporter. Alors ne méprisons pas les jeunes qui s'engagent, mais encourageons-les. Paul croyait aussi fermement que Apollos devait partir à Corinthe pour encourager les frères. Il aurait certainement fait une bonne équipe avec Timothée pour enseigner. Il est convaincu de ça. Les Corinthiens le connaissaient. Il leur avait été très utile déjà. Mais visiblement, Apollos ne voulait pas y aller. Il pensait que ce n'était pas le moment, ou que c'était plusieurs raisons à cela possibles. Mais quelle qu'en soit la raison, Paul a accepté le choix de l'apôtre. Et j'aime bien ça. Il réalise, ah non, mais ce n'est pas moi le chef, le capitaine de l'œuvre de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire, qui va nous diriger. Et Paul se soumet à la direction du Saint-Esprit. Et même s'il en est, il est convaincu que Apollos devrait y aller, ils disent, c'est Dieu qui conduit. Enfin, l'amour se manifeste donc dans la libéralité et puis dans l'œuvre du Seigneur, mais aussi dans l'intérêt que l'on porte à nos frères. Et on voit l'intérêt de Paul pour ses frères et sœurs de l'église de Corinthe dans les recommandations qu'il fait et aussi dans les salutations qu'il leur adresse. Les recommandations, on voit ça dans les versets 13 à 18. Vous savez, si on aime quelqu'un, on veut le meilleur pour lui. On veut que sa vie soit utile dans l'œuvre de Dieu. On veut qu'il mène une vie puissante. Alors, si on a quelques conseils, quelques recommandations à faire, faisons-les avec amour, justement. Et là, il donne dans les versets 13 et 14 cinq exhortations que l'on voit rapidement. D'abord, il leur dit « veillez ». C'est-à-dire, soyez sur vos gardes. Le diable, la tentation, le sommeil spirituel, la négligence de la parole de Dieu, les faux docteurs, tout cela nous menace. Et nous menace tout le temps. Alors veillez. Je me le dis à moi-même. Demeurez ferme dans la foi. La foi ici, c'est pas lié à la confiance, c'est plutôt le contenu de notre foi, c'est-à-dire l'évangile. Gardez l'évangile en tête. Gardez l'évangile dans votre cœur, dans vos pensées. Souvenez-vous de l'évangile. Prêchez-vous l'évangile. Jésus-Christ, Dieu, est venu en chair. Il a mené une vie parfaite. Il s'est offert en sacrifice pour nos péchés, pour mes péchés. Il est ressuscité 3 jours plus tard et il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu et il reviendra chercher à ses enfants. Ça, c'est l'évangile. Et l'évangile devrait impacter nos vies tout entières. Notre manière de fonctionner, notre manière de vivre ici-bas. Et puis, il dit, soyez des hommes. C'est-à-dire courageux, matures. En opposition à la lâcheté, à l'immaturité que les Corinthiens avaient fait preuve. Et puis il dit encore « fortifiez-vous ». J'aime bien cette pensée-là aussi, « fortifiez-vous ». En Christ, hein, bien sûr. L'instant où vous pensez être quelqu'un, l'instant où vous pensez savoir quelque chose, alors vous êtes en grand danger. Mais parce que vous comptez sur vos forces et non sur le Seigneur. Se fortifier, c'est plutôt venir à Christ, qui donne la force, la sagesse et l'amour. Et puis enfin, il dit, faites tout par amour. Oh, si on pouvait se souvenir de cela. Si toutes nos pensées, toutes nos paroles, toutes nos actions étaient motivées par l'amour, ce serait magnifique. Ce serait magnifique. John MacArthur donne dans un de ses commentaires, il dit « L'amour complète et équilibre tout le reste. Le principe qui embellit et adoucit tout. Il empêche que la fermeté se change en dureté et que notre force se change en domination. Il donne à notre maturité douceur et prévenance. Il empêche notre saine doctrine de devenir dogmatisme et notre vie pieuse de devenir du légalisme suffisant. Et puis Paul ajoute dans les versets 15 à 18 une autre recommandation qui est liée à ce qu'il vient de dire. Il demande à ce que les frères de Corinthe aient du respect envers ceux qui se consacrent au service des frères. Dans les versets 15 et 16, il parle de la famille de Stéphanas qui a été les prémices, c'est-à-dire les premiers filles, les premiers fruits, les premiers convertis de Corinthe. Et il leur dit, voyez ces frères. Ils ont été les premiers à recevoir l'Évangile. Et immédiatement, ils se sont donnés eux-mêmes pour que d'autres apprennent à connaître Jésus-Christ. Et ils ont fortifié les frères et ils se sont donnés tout entiers dans cette œuvre. Voilà ce qui devrait provoquer notre respect et l'amour de tous. Et puis, il donne des salutations. Ça, c'est dans les versets 19 à 24. Et je termine avec ça. J'aime beaucoup ça. Quelques salutations. Et il commence par donner les salutations des églises d'Asie, au verset 19. Toutes les églises vous saluent. Les Corinthiens se prenaient un peu pour le centre du monde. Ils pensaient qu'il y avait eux, et puis que tout dépendait d'eux. Mais là, Paul, il leur montre le panorama. Il leur dit, toutes les églises d'Asie vous saluent. Et en dehors de l'Asie, il y a encore tellement d'églises. Vous faites partie d'une famille spirituelle immense et ils se soucient pour vous. Ils ont de l'affection pour vous. Ils vous aiment et ils prient pour vous. Ils vous envoient leurs salutations. Vous leur êtes chers. Ah, le fait de se souvenir qu'on a des frères qui sont persécutés. Il y a plusieurs millions de chrétiens persécutés dans le monde. Ah, si on pouvait se souvenir d'eux jour après jour. Dans nos prières, dans notre affection, il y a des gens qui sont en lutte avec les persécutions. Il y a des gens qui travaillent seuls dans un coin du monde avec l'opposition. Il y a des gens qui ne voient pas de fruits. Il y a des gens qui ont perdu leur famille en servant le Seigneur. Oh, on fait partie de cette famille. On devrait s'en souvenir, et c'est, je crois, tout ce qui nous anime dans le projet missionnaire de l'Église. Et puis Paul envoie aussi les salutations d'Aquilas et Priscille, et de l'Église qui est dans leur maison. Aquilas et Priscille, ils ont commencé l'œuvre à Corinthe avec l'apôtre Paul. C'est les trois. Ils ont servi ensemble dans l'œuvre du Seigneur. C'était fantastique. Vous imaginez les souvenirs quand ils ont les salutations de Paul, d'Aquilas et Priscille. Et puis ils voient aussi qu'ils ont commencé un travail dans leur propre maison. Et donc ils sont encouragés, on imagine, de les savoir persévérants dans l'œuvre de Dieu. Et puis verset 20, Paul envoie des salutations de tous les frères. Les salutations aux Éphésiens, des Éphésiens sont envoyées aux Corinthiens. Ça, c'est le corps de Christ. Paul, enfin, encourage les Corinthiens à se saluer les uns les autres par un saint baiser. Ça, c'est un témoignage d'affection, saint, chaleureux. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les bisous, serrez la main, chaleureusement, les yeux dans les yeux. Vous connaissez la chanson de Louis Armstrong, What a Wonderful World. Il commence avec quel monde merveilleux. Et il commence à décrire les arbres verts, le ciel bleu, les nuages blancs et tout ça. Et il dit, oh, et je pense en moi-même, I think to myself, what a wonderful world. Puis, l'une des strophes, tout le monde est réveillé là avec ça. L'une des strophes dit « Les couleurs de l'arc-en-ciel, si jolies dans le ciel, sont aussi sur les visages des passants. Je vois des amis se serrer la main, se dire « Comment vas-tu ?» And I sing to myself. » Pardon, j'ai oublié le plus important. Ils se disent « Comment vas-tu ?» En réalité, ils se disent « Je t'aime. » And I think to myself, what a wonderful world. Et je pense en moi-même, quel monde merveilleux. Les gens se saluent. Les gens se disent, je t'aime au fond. Les conséquences pour l'église de Corinthe, c'est tellement fort. C'est une église qui est divisée, il y a des rivalités, il y a des... Et là, Paul dit, les esclaves, les maîtres, embrassez-vous, saluez-vous. Les hommes, les femmes, embrassez-vous, saluez-vous. D'une manière saine. Les riches, les pauvres, les jeunes, les vieux, les juifs, les non-juifs. Et là, il se manifeste un véritable intérêt. And I think to myself, what a wonderful church. Quelle église merveilleuse. L'application est simple. Prenons du temps pour nous saluer. Prenons du temps pour aller vers ceux qu'on ne connaît pas bien, ou pas du tout. Prenons du temps pour poser la question, comment vas-tu? Et attendez la réponse. Enfin, Paul, il termine avec ses propres salutations et il donne, il le fait avec ses propres mots, il le dit, de ma propre main. D'habitude, il utilise un secrétaire qui dicte, auquel il dicte, mais à la fin, là, il va authentifier un peu cette lettre avec sa propre écriture, ses propres mots à lui. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Pouf, oh, tu parles d'une salutation. Ouais. Il est en train de dire, le véritable croyant, c'est celui qui aime le Seigneur. Du coup, on peut tous voir où est-ce que nous en sommes avec le Seigneur. Est-ce que j'aime Christ? Est-ce que j'aime Christ? Je ne dis pas, est-ce que j'aime l'ambiance? Non, est-ce que j'aime Christ? Est-ce que j'ai une relation avec lui? Et puis il ajoute, Maranatha, qu'on a chanté tout à l'heure, viens Seigneur. Qu'est-ce que ça signifie ce Maranatha juste après cette parole que tous ceux qui n'aiment pas le Seigneur soient anathème? J'ai pensé peut-être que ceux qui aiment le Seigneur aiment et attendent son avènement, son retour. Ça c'est sûr. Peut-être c'est viens Seigneur nettoyer ton église de tous ceux qui ne t'aiment pas vraiment. Les chrétiens de nom, au fond, qui ont l'étiquette, mais qui n'aiment pas vraiment Christ. Peut-être c'est une invitation pour tous ceux qui ne sont pas encore véritablement chrétiens à recevoir Christ. Maranatha, Seigneur, viens dans ma vie. Sauve-moi. Peut-être que Maranatha, ça signifie tout cela en même temps ici. Et après sa signature habituelle que l'on retrouve dans la plupart de ses épîtres, hein, et ici au verset 23, « Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous », Paul ajoute, « Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ ». Voyez-vous, l'église de Corinthe traverse de sérieux problèmes. Mais Paul s'est adressé aux membres de cette église avec amour et avec force. Et les a recentrés sur Jésus-Christ. Il a abordé la question des divisions, des conflits, de l'égocentrisme, des abus dans l'exercice de la liberté, des désordres dans les rencontres publiques, du mauvais usage des dons spirituels et des attitudes erronées à l'égard de la résurrection. Dans chaque église, vous savez quoi, il y a des problèmes et la nôtre n'y échappe pas. Et les problèmes engendrent des tensions et des divisions. Mais bien comprendre l'Évangile et comment il s'applique à chacune de nos situations de vie et nous transforme. Voilà ce qui nous permet d'aborder chaque difficulté, chaque problème. Voilà tout le profit que nous apporte cette épître aux Corinthiens. Pourquoi est-ce que Dieu a-t-il consigné cette épître avec tellement de problèmes? Mais c'est pour que chaque église, la nôtre également, puisse comprendre comment chaque difficulté, chaque problème, chaque situation de conflit, de division, chaque problème doctrinal puisse être traité avec l'Évangile. Je prie que cette manière de vivre l'Évangile impacte profondément notre Église. Je prie que Dieu nous remplisse d'amour les uns pour les autres, que cet amour soit visible avec la libéralité que nous exerçons, avec le travail dans l'œuvre du Seigneur passionné et avec l'intérêt que nous portons les uns aux autres et aux frères qui sont au loin. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous secoure dans tout ce projet. Prions, si vous voulez bien, pendant que nos frères, aussi musiciens, nous rejoignent sur l'estrade. Seigneur, merci pour cette épître. C'est ta parole que tu nous as laissée pour nous instruire, Seigneur, dans toutes tes voies. Seigneur, on est heureux de ce que les Corinthiens aient connu tellement de problèmes, parce que tu nous montres comment tu, par ton évangile, tu viens régler chaque situation difficile. Seigneur, apprends-nous à pratiquer cet évangile, à être capable de nous demander pardon, à être capable de nous humilier comme toi-même tu t'es humilié jusqu'à porter nos fautes sur le bois. Seigneur, nous te prions pour que tu nous remplisses de cet amour passionné de l'apôtre Paul pour des pécheurs. Seigneur, qu'on puisse s'aimer ardemment les uns les autres, manifester cet amour dans notre libéralité envers ton Église ici, mais aussi envers nos frères qui sont au loin, ceux qui sont les plus démunis. Seigneur, nous te prions pour que notre amour soit visible dans le travail, l'exercice, Seigneur, du ministère, quels que soient les jours difficiles. Et Seigneur, nous te prions pour que notre amour soit visible dans l'intérêt et dans les salutations que l'on se transmet les uns aux autres. Seigneur, viens-nous en aide pour le faire. Que tu nous secours, Seigneur, et pour que cette Église continue à prospérer sous ton regard et manifeste l'Évangile, Seigneur, à la face de ce monde. Nous te le demandons par Jésus-Christ. Amen. Amen.